Bonjour tout le monde, bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de voitures à l'instant. Mais avant, je veux aussi vous dire qu'on va avoir une deuxième heure un peu plus tournée vers le zen. Et aussi, on va se questionner le zen, parce qu'on va parler un peu de méditation avec Janie Duquette, entre autres, qui a mis sur Facebook cette semaine une vidéo que j'ai trouvée très inspirante, parce que Janie était comme moi avant, et peut-être comme vous qui nous écoutez, surtout les gars, hein, on est comme pas... T'sais, la méditation, on se dit souvent, ouais... Ça, c'est le fun, mais à quoi ça sert? Et ultimement, j'ai pas le temps. Il y a encore beaucoup de gens là, qui mériteraient, dont je suis, de se faire convaincre. Je suis convaincue, moi, que c'est super bon quand on le fait. C'est juste de s'y mettre. Alors, on va essayer de voir comment on peut se rapprocher un petit peu plus de notre bonheur tout à l'heure avec Janie Duquette, entre autres. On va également parler de surconsommation parce qu'on en parle beaucoup depuis hier. Là, vous avez entendu dans les émissions de mon collègue, on vous a demandé quand faites-vous réparer vos bébelles, achetez-vous du neuf. Dans toute cette étude là, auprès de plusieurs milliers de Canadiens et de Québécois sur nos habitudes de consommation, ce qui est fascinant là-dedans, moi, quand j'ai lu l'étude, je me suis dit, ben voyons donc, il y a une personne sur deux qui dit qu'elle n'est pas responsable de sa surconsommation. Une personne sur deux, là. Vous puis moi, là, on regarde ça puis on se dit, non, on n'est pas responsable. On surconsomme, mais c'est pas de notre faute. C'est quand même fascinant comme attitude, cette espèce d'attitude de « c'est pas moi, ça doit être l'autre ». Alors, on va voir ça en deuxième heure d'émission aussi parce qu'on aura des spécialistes de la récupération. Parce que, savez-vous quoi? C'est vrai que ça coûte moins cher de réparer puis de récupérer ce qu'on a. C'est pas normal que ça doive... Dernièrement, là, je voulais faire recouvrir un vieux sofa que j'aime. J'ai un profond attachement. Je l'ai déjà fait recouvrir une fois. J'ai appelé il y a pas longtemps le gars qui me l'avait recouvert. Il me charge le double du prix du sofa. Je me suis dit, m'en acheter un neuf? Voyons donc. Sauf qu'il y a quelque chose là-dedans de pas normal. Comment ça se fait que faire recouvrir un vieux sofa, ça te coûte plus cher que d'acheter un nouveau sofa? Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Alors, nous partagerons toutes nos anecdotes tout à l'heure en deuxième heure. Je voulais vous parler de voitures en première heure avec nos spécialistes parce qu'effectivement, la semaine prochaine, il y a des conférences qui vont se tenir à Montréal, entre autres une conférence qui s'appelle Moving On, où il va y avoir pas mal de monde qui vont venir discuter des progrès technologiques en matière de véhicules automobiles. On va parler de quoi, bien sûr? De véhicules électriques. Puis cette semaine, ça nous fait du bien de menacer, de tous rouler en électrique, de menacer les pétroliers. Genre, tu vas voir, je vais finir par domper ma voiture à essence. Ça, c'est la menace qu'on fait quand on est choqué. Mais finalement, on va quand même au bureau avec notre voiture en pestant dans le trafic. Benoît Charrette, Philippe Lagu sont avec nous. Merci tous les deux. Puis besoin de vous présenter. Benoît, éditeur-rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile 2018 et de l'annuel de l'auto d'occasion 2018 exact. Également. Merci d'être là, Benoît.
Plaisir.
Philippe Lagu, chroniqueur auto chez nous sur le site web philippelagu.com également. À Radio Circulation 730, vous êtes pas mal occupé par les temps qui tournent et qui courent parce que ça se peut pas le trafic de même. Hein? Encore cette semaine.
Et ça ne va pas en s'améliorant.
Non. Ça n'ira pas en s'améliorant, effectivement, cet été, non.
Alors, tu dis, ils pourraient compatir en nous épargnant des hausses d'essence injustifiées, mais non, Philippe, hein?
La compassion, c'est pas dans leur registre, pas du tout. Mais regarde, Isabelle, moi, j'arrive, je suis en vacances présentement, et je viens même te voir en vacances.
Écoute, je suis flatté.
J'ai fait le tour de la Gaspésie en 48 heures. Un marathon, tu sais.
Toi, tu devrais te mettre à la méditation.
Un marathon à la vitesse d'un sprint.
Il est en vacances, il fait le tour de la Gaspésie en deux jours.
Mais pour un essai routier, je suis allé essayer. En fait, j'en ai profité pour aller faire l'essai d'une Lincoln MKZ hybride.
Ah.
Et en 48 heures, tu sais, quand tu fais la Gaspésie au complet, là, c'est pas linéaire, hein, c'est pas plat. On monte, on descend et tout ça, donc c'est pas le parcours le plus propice à l'économie d'essence. C'est pas comme rouler à 115 sur le régulateur de vitesse là sur
quel beau coin du Québec.
Puis faire Montréal-Québec, ouais, c'est ouais. Ça. Mais j'ai fait 6,2 litres aux 100 km.
Et tu t'es branché combien de fois?
6,0.
Tu te branches pas,
c'est une hybride.
C'est un hybride conventionnel, ça.
OK, d'accord. Ouais.
Mais c'est quand même une grosse voiture, lourde, grosse voiture de luxe, pesante, et avec laquelle on fait une consommation de sous-compact.
Ouais.
C'est assez extraordinaire.
Fait que tu l'as aimé?
Ben, écoute, c'est-tu le bonheur total? C'est un pied de nez aux pétrolières d'avoir un auto comme ça, d'essayer une voiture comme ça alors que l'essence est au plus cher. Là.
Toi, tu roules en... Kona, toi?
Oui, cette semaine, j'ai un Hyundai Kona, puis j'étais à 6,2. Là, ce matin de moyenne, c'est drôle, parce qu'il y a du chiffre-là, j'étais exactement la même chose, mais c'est un 4 cylindres 1,6 litres.
Puis ce que Benoît dit, c'est intéressant. Parce que Benoît conduit. Le Kona, c'est un petit VUS. Ouais. Les gens pensent tous que VUS égale.
Il est assez cute aussi,
consommation,
d'ailleurs.
Gargant.
Oui, il est mignon. Il est pas mal.
Et ça tue le mythe que les VUS ne consomment pas tous.
Oui, c'est vrai.
Non. Quand c'est petit, puis ça consomme pas.
Mais toi aussi, c'est un hybride rechargeable?
Non, moi,
ou
c'est
hybride
un
conventionnel?
Moteur à essence 1.6
ah,
turbo. That's it. Y a pas... Et il faut le dire, Philippe a raison. T'sais, d'appeler ça un VUS, c'est un grand mot. C'est une voiture habillée en utilitaire.
Comme
parce que c'est
plus
un châssis
plus,
de voiture, c'est un moteur qu'on trouve dans ça. Donc, la consommation est très raisonnable.
Et là, on jase de vos véhicules, mais notre sujet, quand même, on va le dire à nos auditeurs, c'est on voulait se questionner ce matin sur la voiture de demain. Justement, parce qu'à la conférence Moving On, on trouvait que c'était une belle occasion de se questionner parce que, on le sait, encore dernièrement, je lisais des articles un peu partout dans le monde, tout le monde le concède. La voiture de demain, posez pas trop la question longtemps, elle va être électrique et elle va être autonome. Dans combien de temps, on sait pas, mais ça va y venir. C'est un peu la conclusion que vous avez, toi, Benoît, là, qui
oui,
rend justement...
Oui, absolument. Là, moi, j'ai parlé ce matin avec des gens de Mini. Puis eux travaillent dans ce sens-là. Je pense que tout le monde est là. Il n'y aura pas, et je l'ai dit souvent, une solution finale. Ça ne sera pas que de l'électrique. Il y a des gens qui travaillent sur l'hydrogène. Il y a des gens qui travaillent sur des solutions solaires. Même dans ce domaine-là, on a des alternatives.
Ça, c'est génial.
On a des alternatives de carburant réutilisable. Donc, d'utiliser un carburant, mais qui serait une source renouvelable au lieu d'avoir une source fossile comme on a en ce moment. Donc, il n'y a pas une solution qui va arriver à trouver remède pour tout, mais c'est un ensemble de solutions, puis il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait en ce moment là-dedans.
Mm-hmm. Parce qu'on parle beaucoup de mobilité urbaine aussi, quand on parle de se déplacer, d'ailleurs, Moving On, c'est ça, là,
oui.
c'est vraiment comment arriver à bouger en,
fait, en
ville.
Mobilité durable
oui,
et aussi réinventer la mobilité en ville.
C'est-à-dire le transport urbain.
On a un plan, ou moi j'appelle ça un plan d'affaires, mais on a une façon de fonctionner en ce moment qui est...
Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment planifié.
En fait, ça date des débuts de l'automobile. La façon n'a pas vraiment changé. Là, les compagnies commencent à penser à des solutions pour dire comment est-ce qu'on peut mieux utiliser la ville pour la rendre plus agréable pour les déplacements. Ça concerne pas juste les autos, ça va concerner le transport en commun, les métros, le partage de voitures. On travaille sur toutes sortes de solutions.
Oui, c'est intéressant parce que le partage de voitures, Philippe, tu as dû voir ça ce matin. D'ailleurs, Paul Arcand, mon collègue, avait une entrevue avec celui qui est responsable de la compagnie Turo, qui est un nouveau système de... C'est un peu le Airbnb du char, finalement, de la voiture.
Exact.
Est-ce que tu es prêt à prêter ton véhicule à quelqu'un que tu connais pas en échange d'argent? C'est comme tu prêtes ton appartement. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de ça, mais ça fait partie, on se questionne ce matin sur quelle sera la voiture de demain, quelles seront les façons de nous transporter demain. Bon, moi, je me souviens, à l'époque, on s'imaginait que dans les années 2000, on aurait tous des voitures volantes. Aujourd'hui, on sait qu'on est vraiment loin de ça. Est-ce que l'avenir de la voiture, c'est justement le communauto, le partage de véhicules, le Turo peut-être? Je ne sais pas si les gens sont là. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe?
On n'est pas si loin de la voiture volante. Regarde les drones. Uber est en train de tester des drones volants qui pourraient servir de taxi.
Ouais.
Alors, on s'en vient proche, là.
Ouais.
Là, ça commence à ressembler à Blade Runner.
Il y a deux compagnies de voitures connues qui ont déjà des voitures volantes, Terra Fugia et Palvi, P-A-L-V, qui est une compagnie hollandaise qui a présenté un gyrocoptère au Salon de l'Auto à Genève. Et il y a des vols d'essai qui sont faits. Évidemment, il y a de la réglementation.
Avec une vraie personne dedans? Là,
oui, absolument. Là.
Ouais.
C'est un biplace. Pilote et passager. Même chose pour le Terra Fugia.
Ça vole à combien, ça?
Il y a 500 km d'autonomie, deux moteurs Rotax. On se sert d'un moteur pour rouler quand on est sur la route, puis il y a un deuxième moteur qui embarque quand on vole.
T'es à quelle hauteur dans les airs?
Bien là, il n'y a pas de réglementation jusqu'à 1000 mètres. Donc, en bas de 1000 mètres, on peut voler.
Okay.
Au-dessus de 1000 mètres, là, on tombe dans des corridors aériens.
Ben
là,
oui,
il y a de la
ça,
réglementation
là.
et tout. Mais pour quelqu'un qui reste bas, disons-le comme ça, il n'y a pas de problème. Puis l'autonomie du véhicule est 500 km.
Et elle vole, là, elle fonctionne. Là.
Oui, absolument, ça marche, là.
Ils l'ont montré, ils en ont fait la démonstration à plusieurs reprises. C'est pas Popular Mechanics, là, construisez un avion à partir de votre voiture, là. On n'est pas là, là. C'est quelque chose de sérieux.
On
n'est
pas dans
là.
The Man with the Golden Gun.
Ouais, ou Fantomas.
Ou Fantomas. C'est vrai! Fantomas, c'est vrai ça! C'est vrai! Oui, oui, oui. Mais ça, c'est flyé, pareil, quand on y pense. Oui, ça veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs niveaux de mobilité. Tu pourrais avoir des gens quand même dans des voitures électriques au sol. Tu peux avoir ensuite des autoroutes viaducs sur pylône. Puis tu pourrais avoir ce troisième niveau qui serait donc ces espèces de véhicules volants.
Et
identifié.
Puis il y a des compagnies qui travaillent sur des partages de voitures autonomes. C'est-à-dire que vous allez avoir une application sur votre téléphone.
Ouais.
Et vous dites, moi, je suis à telle adresse, à tel endroit. Et la voiture sans conducteur va venir vous chercher. Et on peut même partager le taxi si vous allez avec quelqu'un dans le même endroit. Et tout ça sans conducteur. On travaille là-dessus en ce moment-là.
Ouais, il y a plein de formules, en fait. J'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, où les autoroutes sont tellement larges. Tu as du 4, 5, 6 voies, là. Et tu as ta voie de gauche qui, en général, est pour ce qu'ils appellent les HOV 2+. Là, tu dois être au moins... C'est des lignes pour les gens, les véhicules où il y a deux...
On dit en anglais le carpool.
C'est ça. Covoiturage. Exactement. Le covoiturage. Tu dois être au moins... Mais je veux dire, les gens n'écoutent pas.
Ben non.
Souvent, ils se disent, je vais me mettre là, c'est la voie tranquille. T'es tout seul. T'as envie de dire, qu'est-ce que tu fais là? Il y a beaucoup de résistance, je trouve. Bon, d'abord, un, il y a beaucoup de monde qui ne sait pas conduire. Deux, puis ça, c'est international, j'ai l'impression. Ouais, même là, si nous, on a l'impression d'être les pires. Là. On est peut-être dans le top 10 des pires qui ne savent pas conduire, des pires chauffeurs. En tout cas, il y a des émissions de télé là-dessus.
Il y en a partout.
Il y en a partout.
Oui, c'est assez universel, ça.
Mais tu sais, il faudrait dire aux gens, il faut trouver une façon de se transporter plus rapidement.
Ben là, il y a un débat de société, là. Et il y a une problématique que je pourrais qualifier de sociologique parce qu'on propose des solutions de plus en plus collectives dans une société qui est en train de devenir de plus en plus individualiste.
C'est vrai.
Je ne sais pas comment on va réussir à faire ça.
Ben, pour ça que les gens sont réfractaires, pour ça que ça ne marche pas.
Ben, les gens sont toujours réfractaires au changement.
En ce moment, je pense qu'on peut dire qu'en ce moment, ou on l'explique mal, ou on ne donne pas assez d'incitatifs aux gens pour les. Faut que tu incites les gens. Il y a une proposition intéressante dernièrement. Je pense que c'est Québec solidaire qui a dit ça va être gratuit le transport en commun.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est brillant.
Ben,
moi, je pense que c'est sûr que c'est gratuit pour l'usager. C'est sûr qu'il y a un coût pour la société. Mais tant que tu auras. Transport en commun gratuit, si tu veux que le monde l'utilise, oui. Ben après, tu peux dire pour les. Déjà, 18 ans et moins, pourquoi les jeunes devraient payer? C'est les prochains. Tu sais, c'est les citoyens de demain. Si tu veux les inciter à changer leurs habitudes, comment jeunes, tu sais?
Mais c'est ça. En fait, tout grand changement doit d'abord devenir un changement de société. Donc, il faut que les États fassent un choix et dire on va amener les gens là. L'autoréglementation, dans tout ce qui existe, ça n'a jamais fonctionné.
Non.
Alors, si
on
dit aux gens.
En 2008-2009 à Wall Street.
Oui,
le marché s'est très bien autorégulé.
Oui,
ouais.
Absolument. Donc, c'est pas la solution. Il faut que ça provienne. Tu sais, les gens disent souvent regardez la Norvège, comme il y a beaucoup de véhicules électriques.
Mm.
Oui, mais la Norvège donnait 26 000 $ aux gens qui achetaient un véhicule électrique. Pourquoi vous pensez qu'ils en ont vendu? Si moi, demain matin, tu me vends un véhicule électrique, moins du moitié du prix. Ça va m'intéresser. Là. Je vais commencer à y penser sérieusement. Et on avait plein de privilèges. On payait pas pour les autoroutes à péage. Il y avait des corridors réservés, des stationnements réservés. Il y avait une panoplie d'avantages.
Ah, ouais.
Donc, si on veut vraiment que les gens aillent dans une direction, faut les envoyer dans cette direction-là.
Ouais.
Puis ça va rester vrai pour tous les domaines automobiles de l'avenir. Là. Mm. Il faut, comme société, dire, nous, on s'en va vers ça. C'est tout, sauf que ça prend un courage politique pour le faire, puis c'est souvent ça qui manque.
Comment ça se fait que les pétroliers... Moi, celle-là, je la comprends pas. Peut-être que je suis naïve ou que j'ai manqué certains cours à l'université, mais comment se fait-il qu'on a des subventions aux compagnies pétrolières?
Ça, c'est un peu scandaleux, ça. Effectivement.
Ça serait
comme subventionner une compagnie de tabac, à peu près. Là. C'est quasiment ça.
Considérant les montants faramineux que ces gens-là font en profit, pourquoi ils ont besoin d'une subvention? Là?
Ils n'ont pas besoin. Ils apprennent parce qu'on leur donne.
Ben,
on est bien assez népais pour... On leur donne.
Puis à leur place, je la prendrais aussi.
J'apprendrais certains.
Rendu là.
Mais... Je te dirais merci, en plus.
En même temps, ce qu'ils font en ce moment... Pour les adeptes, pour ceux qui espèrent un changement dans les mentalités et dans les habitudes, ce que les pétrolières sont en train de faire là, ils sont vraiment, vraiment en train de rendre service aux adeptes de cette cause-là. Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui commencent vraiment à réfléchir à l'hybride et à l'électrique.
Ils sont pas folles, les pétrolières sont... Non, c'est sûr, tout à fait.
Ben, les pétrolières, ils savent de toute façon que leur bassin d'acheteurs, il va en diminuant. Il y a de moins en moins de... Les jeunes ne veulent plus acheter d'automobile. Alors, eux autres, ils se disent... Puis en plus, c'est une énergie qui est non renouvelable. Eux autres, ils se disent, pour le temps qui nous reste, là, on va...
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
On va faire sauter la banque.
Ils ont dû calculer que pour les 10 prochaines années, il n'y en aura pas de changement majeur de mentalité, comme tu dis, Benoît. Je pense... Tu t'appelles Petrol Inc. Là. Tu sais très bien que les gens vont être encore dépendants de toi pendant une couple de générations.
C'est exactement ça. Ouais. Eux autres, ils se disent, on est dans nos dernières bonnes années.
Fait qu'on
Alors, on va ramasser.
C'est ça. Alors, on s'arrête ici. On va venir, bien sûr, vous demander ce que vous en pensez. On discute un peu de la voiture de demain et aussi de nos façons de nous transporter demain. Ça va ressembler à quoi, d'après vous? Évidemment, quand on parle de mobilité, on pense à la voiture électrique parce qu'on se dit, c'est vraiment là que va l'avenir. Mais il y a tellement d'autres possibilités. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, ce qui sort, cette nouvelle sur le fait que, effectivement, on pourrait décider de, quand on s'en sert pas, prêter notre voiture à quelqu'un en échange d'argent. C'est tout. Il y a tout un lien. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de beaucoup de surconsommation. On va en parler en deuxième heure. Des gens réagissent déjà à ce que je disais tout à l'heure sur la réparation qui coûte plus cher. Il y a des gens qui me disent le prix d'une réparation coûte plus cher que le neuf. Ça, c'est Yves qui m'écrit. Le coût de la main-d'œuvre, il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais en même temps, il va falloir changer certains paradigmes. C'est quand même pas normal. Il y a des choses qu'il faut corriger. 514-790-9850. Vous me dites, comment vous voyez, vous, le véhicule de demain? Il sera encore pour longtemps un véhicule à essence, d'après vous? Sans frais, vous pouvez nous joindre partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. On a Joe avec nous. Bonjour, Joe.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Pour vous, la voiture de demain, ça va ressembler à quoi?
Ben, la voiture électrique.
Oh mon Dieu, êtes-vous dans le vent, hein, Joe?
Oui, un petit peu.
Ça paraît pas du tout.
Oui, c'est ça, ça va être la voiture électrique.
Oui. En avez-vous une déjà?
Non, j'ai pas de voiture électrique. Je fonctionne avec une voiture à gaz. Je trouve ça dommage, le prix de l'essence présentement. Puis ouais. Je sais que ça va s'en aller en montant, mais c'est pas ce qui va me diriger vers la voiture électrique. Ce qui va me diriger vers la voiture électrique, c'est quand les prix vont diminuer. Parce qu'ils sont encore beaucoup trop chers.
Les prix d'achat du véhicule électrique, hein, c'est ça?
Oui, puis il n'y a pas assez de millage, honnêtement, présentement. Là. Pour un véhicule à 35 000 $ 400 km, puis on a des hivers ici, on tombe à 300 km en moyenne.
Mm-hmm.
C'est vraiment pas assez. Là.
Mais est-ce que vous faites plus de 300 km par jour?
Je te dirais pas par jour, mais l'été, quand tu pars en vacances, tu as besoin, tu veux faire 1000 km, là, c'est plate de s'arrêter à toutes les 350-400 km.
Oui, mais en même temps, tu peux aussi te dire, tu sais, c'est ça qu'il faut tout repenser. Tu peux te dire aussi, OK, est-ce que je m'achète un véhicule qui a une grosse capacité de rouler au quotidien pour aller en vacances 2 semaines quelque part? Tu peux aussi dire, je m'achète un plus petit véhicule avec un kilométrage, autonomie. Une autonomie. Voilà, je cherchais le mot, merci.
C'est correct.
Une autonomie, c'est un nouveau mot, autonomie pour un véhicule. On a un nouveau vocabulaire. Une autonomie électrique de... Moi, je me suis dit, je pourrais avoir un véhicule qui fait 50 à 80 km d'autonomie par jour, puis je serais correct. Ben, je n'ai pas besoin d'un véhicule qui a 400.
Puis il existe des solutions aussi entre les deux.
Moi, tu peux te louer un véhicule ou tu peux te l'échanger.
C'est ça. Moi, j'ai quelqu'un, je connais, qui s'est acheté une Leaf, mais une 2015, qui a payé un peu plus de 16 000 $ donc à un prix très raisonnable, et lui, il la prend pour aller travailler.
C'est ça.
Il y a un deuxième véhicule qu'il a gardé quand il sort ou qu'il va en vacances ou voir la famille qui, lui, c'est un monsieur qui vient de Chicoutimi.
C'est ça.
Donc, lui, il peut pas y aller avec sa Leaf, c'est clair. Ben, il peut y aller, mais il va y aller en 3 jours, là. Mais s'il veut y aller d'un coup, il prend l'autre véhicule. Puis lui, pour travailler, ça fait 1 an et demi qu'il voyage. Puis il dit, c'est merveilleux. Moi, je mets plus d'essence la semaine.
C'est
fini,
ça. C'est ça qu'il faut repenser. C'est ça que... Bon, merci, Joe. Bonjour, Richard. Comment vous voyez le véhicule de demain pour vous? Il va ressembler à quoi?
Moi, le véhicule de demain, il faudrait qu'il soit autonome,
ouais.
Électrique, mais qu'il soit capable de tirer quelque chose.
Autonome, mais ça veut dire qu'il conduit tout seul.
Non, ce que je veux dire, c'est que...
Mais autonome, c'est ça que ça veut dire, il n'y a pas de conducteur.
Excusez, moi, ce que je veux dire, c'est millage, un bon millage.
OK, une bonne autonomie.
Une bonne autonomie.
C'est ça que vous dites, là.
Ouais.
Ben, c'est une bonne autonomie, mais qu'il soit capable de tirer quelque chose.
Mm-hmm. Vous voulez tirer quoi, un trailer? Vous tirez tous les jours un trailer, vous?
Quasiment tout le temps.
Ah ouais, okay. C'est ça. Ah ouais, ben c'est sûr. Il y a des
gens sais qu'en ce moment, des compagnies comme Ford travaillent sur des modèles de F-150 électriques. Le problème pour le moment, c'est les piles, la grosseur des piles, parce qu'évidemment, on est capable de tirer électrique, là. D'ailleurs, Tesla a fait une espèce de stunt où ils ont tiré un Boeing ou un
oui,
gros
oui,
avion,
on a parlé
Tesla
la semaine
X,
dernière.
Là.
Oui,
bon,
oui.
Bon, donc, oui, ça se fait. Sauf que ça prend des piles en quantité et ça use.
Sais-tu combien il coûte, ce véhicule-là? J'en parlais la semaine dernière.
T'es rendu à 200 000 quand t'es capitaine Tesla X.
169. Ouais.
Tesla X, là, c'est
185 plus les taxes, t'es bien équipé.
C'est 200.
Ouais, 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 ouais.
J'arrive à 200. On s'entend que c'est pas pour nous. Bon, en tout cas.
Non, c'est pas pour nous, c'est clair.
Merci, Richard. Éric, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Sans aucun doute, c'est la voiture électrique et autonome, mais moi, je suis tout près de m'acheter une voiture électrique. Ce qui me fait encore hésiter, c'est pourquoi Tesla peut fabriquer une autonomie de 500 km, mais il y a à vendre 100 000. Moi, j'ai hâte d'avoir 500 km avec une voiture à 30 000. La classe moyenne, là, familles qui ont besoin d'avoir une caravane, qui veulent aller en vacances, faire du camping, puis tu payes ton condo pour ta maison.
Ouais.
Tu n'iras pas t'acheter une Ioniq à 28 000 piastres, là.
Non, mais on n'est pas loin de ça. Ouais. On n'est pas loin de ça avec la Chevrolet Bolt, là, qui a presque 400 km d'autonomie, là. 383, je pense, le chiffre exact là. Et une Bolt avec le rabais de 8 000 $ du gouvernement. Là, ça commence sérieusement à baisser le prix. C'est comme n'importe
quoi. Tu peux tirer une caravane avec ça?
Non.
C'est ça qu'il dit, là, Éric, là. Lui, il s'en va, mettons, il s'en va en camping avec sa famille. Il veut tirer son...
Moi, je pense que d'ici 3 à 5 ans, le 500 km va devenir, j'ose pas dire commun, mais il y a plusieurs modèles qui vont l'avoir. Parce que...
Non, mais lui, c'est 100 000 $ là, je pense qu'il voulait
va l'avoir à 40, 45 000 pour plusieurs modèles. Parce
dans
que
3 à 5 ans, tu dis?
Dans 3 à 5 ans, on va être là.
Ben, regarde la Bolt. Certain. La Bolt, on est à 4, presque 400, là.
Puis on travaille sur des pistes solides.
Ça coûte
solides.
Combien, ça?
Ça coûte 45 000, enlève le 8 000. Parce que le rabais, là, c'est applicable. En fait, c'est 45 000 plus taxes, moins 8 000, si on veut faire le calcul. Là. Fait que ça revient autour d'une quarantaine de mille. Donc, c'est un bon prix en ce moment. Mais il y a des recherches sur des piles solides qui se font en ce moment où on va tripler l'autonomie des batteries. Et on est en train de travailler sur des recharges rapides. Donc, les obstacles qu'on a en ce moment pour beaucoup de gens commencent à s'abattre tranquillement avec la recherche. Et on va arriver dans un avenir pas si lointain à avoir des prix très proches de ceux des moteurs à essence avec une autonomie en électrique à peu près l'équivalent d'un plein d'essence. Puis on va pouvoir recharger en 20 minutes. Quand on en arrivera à ça, parce que là, même Hydro-Québec a admis elle-même qu'on a mis trop de phase 2, des 240 watts de charge, pas watts, mais volts. Et on va implanter beaucoup plus de phase 3, des 400 volts, parce qu'une phase 2, ça fonctionne, sauf qu'il faut être
faut
là 6-7 heures.
Là.
Ben, c'est ça. Alors, quand tu es en voyage... T'arrêtes manger une heure au restaurant, mais t'arrêtes pas manger 6 heures.
Mais ça, tu dis, ils ont admis qu'ils s'étaient un peu trompés là-dessus. Tu sais, t'es dans un meeting à Hydro, quelqu'un dit, on devrait mettre des recharges pas trop rapides. Ouais, bonne idée. Voyons donc.
Non, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher. Une phase 3, ça coûte très cher. Sauf qu'on réalise
que les phases 2
sont pas utilisées.
Oui, mais c'est dépenser, c'est jeter. Ça, c'est comme l'éolien. C'est jeter de l'argent dans l'eau.
Ben oui.
Si le monde s'en sert pas, ta recharge, là, elle va servir
à rien. Ben non. Puis là,
c'est de l'argent que tu as dépensé pour rien.
Exactement.
C'est
exactement.
Pas le premier cas de gaspillage public.
Non, mais
tu
ils font quoi dans leur meeting? Non, mais ils pensent à quoi? T'as envie de dire, invitez du monde, là, faites des focus groupes, puis les gens vont vous le dire ce qu'ils veulent.
Philippe et moi, on a eu souvent des discussions. Tu regardes des véhicules, tu dis ça, c'est passé d'un meeting, puis il y a quelqu'un qui a dit ben oui, ça va marcher, ça.
on n'en revient juste pas, là. Ben voyons.
J'ai déjà vu des voitures. Puis là, je suis désolée pour ceux qui en ont. Mais tu sais, t'as des voitures, ils ont comme une couleur. C'est comme rosse. C'est une espèce de rangée brûlée.
Cuivre.
Cuivre rouille, on ne sait pas trop comment on l'appelle. Tu dis, l'as-tu payé ton auto?
Alors, il y a des couleurs comme ça. Porsche avait amené un vert vomi aussi, puis il y avait eu des Dodge Néon à l'époque dans ces couleurs-là. Tu dis, OK, ils ont mis ça sur le marché, puis ils ont vraiment pensé que quelqu'un allait l'acheter. Finalement, des fois, t'en vas sur la route.
La Ford Aspire rose, le petit rose malade.
Iris.
Là.
C'était le Iris.
Iris?
Oui, il voulait pas dire rose. C'est pas rose.
On se promenait là-dedans, nous autres. Écoute, on se mettait des sacs bruns sur la tête.
J'ai attendu ma femme une demi-heure devant un bureau un jour, assis dans l'auto. Et là, j'avais hâte qu'elle arrive.
Dans une voiture rose, Benoît. Je dois quand même dire à nos auditeurs, là, c'est pas un jugement, mais il y a une chemise rose et bleue.
Voilà. Oui,
alors,
mais c'est l'été.
Saumonné. C'était ça la couleur de l'iris? C'était saumonné.
Ce qui rendait la chose pire, c'est qu'en plus, c'était une petite voiture LED. C'était une petite voiture toute ronde. C'était affreux. Allez sur Internet, là, sur Google.
Ford Aspire.
Ford Aspire.
Ah, Aspire.
Aspire.
Oui. Aspire. Aspire. Oui, c'était Ford Aspire.
C'était hideux. Hey, alors, tu mets une couleur comme ça, en plus. Imagine une Pontiac Aztec,
mais est-ce qu'ils
en
ont vendu? Est-ce qu'ils l'ont tenu pendant un bout de temps? Ça va
pas très longtemps, non. Ça n'a pas resté. Ça a pas été la plus grande réussite.
Ça n'a pas fait long feu, ça.
Ah, ça, c'est drôle, des fois. Bon, on va aller voir ce que nos auditeurs en pensent. 514-790-9850. Pas de la couleur rose de l'Aspire, bien sûr, mais bien du véhicule de demain. Vous me dites ce que vous pensez que ce sera. À tout de suite. On a Christophe avec nous. Bonjour, Christophe.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
Votre voiture de demain, ça serait quoi pour vous?
Comme vos auditeurs précédents ont dit, moi, je pense que la voiture électrique, c'est la voiture de demain. Mm-hmm. Cependant, je pense que la raison pourquoi la voiture électrique n'est pas populaire maintenant, dès maintenant, c'est à cause des différentes options offertes aux clients qui cherchent les voitures électriques. Comme un de vos invités a dit, en Norvège, ils offrent, je pense, c'était 26 000 $ à l'achat d'une voiture électrique.
Mm-hmm.
Vous voyez, ça devient une option pour le client. Tandis que pour les voitures, par exemple, je donne un autre exemple, les voitures à essence ou au diesel, il y a des panoplies de voitures disponibles aux clients avec des panoplies de stations essence où ils peuvent se remplir. Ouais. Tandis que les voitures électriques, il n'y a qu'un seul ou deux modèles par compagnie et seulement des centres précis à certains endroits où il y a des stations de recharge.
Ah, c'est sûr.
Donc, ouais. Donc ça devient plus compliqué à avoir la voiture électrique.
Oui, tout à fait. Ça, c'est tout des bons points, effectivement.
Ben, en fait, c'est que ça nous sort de nos habitudes.
Ouais.
Puis là où on arrivera à vendre plus de véhicules électriques, c'est quand ça ne changera pas les habitudes des gens.
Ouais.
Donc, quand il y aura des stations de recharge près de chez soi, quand ça va nous prendre 10 minutes pour recharger au lieu d'une heure, deux heures ou six heures.
Ça commence tranquillement, c'est comme à Montréal. Je ne sais pas dans d'autres villes au Québec, mais je sais qu'à Montréal, à certains coins, au centre-ville, entre autres, tu as maintenant deux, trois places de stationnement. Où là, c'est des voitures électriques seulement. Puis tu as encore du monde à essence qui se mettent là parce qu'ils n'ont pas compris. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est comme le monde dans la ligne de gauche, c'est comme qu'est-ce que tu fais là si t'es pas tout plus. Mais ça va venir éventuellement.
En fait, on tend vers ça et la recherche et le développement tendent vers ça. Donc,
mais en même temps, il va falloir avoir une offre plus intéressante. Tu sais, j'ai Pascal qui m'écrit. Écoutez, c'est très juste ce qu'il dit. Beaucoup de gens pensent comme ça. Il dit, la voiture du futur, pour moi, c'est clair, elle va être électrique, mais il va falloir avoir une offre beaucoup plus intéressante que ça. Oui, une Bolt, c'est 40 000 $ mais il dit, moi, je trouve pas que c'est très attrayant comparativement avec... Il y a une Audi A4. C'est pas super cher non plus, une Audi A4. Là.
Ben,
tu sais, ça,
quand même.
Ben, ça se compare à un prix d'une Bolt.
C'est ça qu'il dit.
Ouais, oui.
Donc, lui, il dit, ben moi, entre une Audi A4 puis une Bolt... Je vais prendre l'Audi parce qu'il y a une question de toi.
Ça, c'est vrai, là. Mais là, il faut quand même regarder l'offre qu'on a en voiture électrique en ce moment versus l'offre qu'on avait en voiture électrique il y a 5 ans.
C'est vrai.
Ça a déjà explosé. Puis il faudrait peut-être parler aussi de voitures électriques qui sont quand même relativement abordables. La Nissan Leaf, là, avec le rabais gouvernemental, c'est en bas de 30 000.
Ouais.
C'est quand même pas rien. Et on parlait tantôt pendant la pause publicitaire de la Hyundai Ioniq.
Ouais.
La Ioniq, là, vous pouvez l'avoir en trois modes. Vous pouvez avoir une Hyundai Ioniq hybride, une Hyundai Ioniq hybride rechargeable et une Hyundai Ioniq 100% électrique. Moi, j'ai eu l'hybride rechargeable la semaine dernière. Écoute, tu fais en bas de 4 litres au 100 km. Puis même, des fois, si tu as profité plus de ta batterie...
Ça prend combien de secondes décoller du coin de la rue?
Non.
C'est très honnête.
Ouais.
Ben oui. Ben, l'électricité, c'est la beauté. Il y a beaucoup de couple qui est instantané. Le couple est à zéro rotation par minute. Là. En partant, il est là.
C'est pas des veaux, les autos électriques.
Non, pas du tout. Ça marche.
Moi, je suis assez heureux quand je conduis une auto électrique.
Tout
là.
Électrique, effectivement, j'avais déjà essayé la Tesla. Puis ça,
hybride avait... électrique aussi.
Mais moi, j'ai déjà eu une Optimode Kia.
Ça, c'était une hybride, mais conventionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'électrique. Moi, j'ai pas aimé ça.
Parce que la pile sert plutôt à épauler le moteur à essence. Donc, il ne joue pas de rôle dans la propulsion à proprement parler. Donc, l'accélération, c'est celle du moteur à essence.
C'est une calèche. Là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est
mais
ça.
En même temps, regarde,
au départ,
mais regarde le code de la route qu'on a. Je veux dire, on a des voitures quelque part, faut être cohérent aussi. On a des voitures conformes au code de la route qu'on a, un code de la route qui date des années 60. Là. On a les mêmes on a les mêmes limites de vitesse depuis 50
mais
ans.
Mais je parlais au décollage. Là. Je parlais au, à lumière rouge, ça passe au vert, tu veux décoller. Là. Tu veux que ta voiture ait un petit peu de torque quand
même.
C'est ça. Mais comme on s'en va vers l'électrique, de toute façon,
il faut que c'est comme, tu sais, si je dis à ma voiture, OK, on y va, là, pitoune. Ah ouais. Ah, hi. Non, franchement, c'est ça que je veux dire par la calèche, tu sais.
Ouais, mais avec
idéalement, quand tu appuies sur le gaz, il faudrait qu'elle parte.
Ouais, mais avec une auto électrique, tu n'auras pas besoin de dire ça. Une Prius, c'est vrai, c'est pas vite, là.
Ouais.
Une vraie hybride, là. Mais une voiture qui est hybride rechargeable, tu fonctionnes juste sur la batterie. Attends, là t'as vraiment une accélération instantanée.
Instantanée.
Wow.
On a Yves avec nous. Bonjour.
Salut Isabelle. Salut les gars, ça va bien?
Oui.
Oui, écoutez, moi, je suis un peu passionné par l'automobile. C'est évident que quand les gars ou les auditeurs disent qu'on s'en va vers l'électrique, ça, c'est un no-brainer, c'est clair. T'sais, je parlais aux gens de Volkswagen il n'y a pas longtemps qui me disaient, eux autres, des modèles diesel, ils en feront plus pour le scandale, mais aussi par le fait qu'ils s'en vont dans 4-5 ans électriques.
Ouais.
Je trouve qu'on est un petit peu impatient parce que il y en a qui parlent de la disponibilité des bornes, les piles sont encore grosses. Ben, c'est évident que dans pas très, très longtemps, on va parler de bornes un peu partout, les piles vont être plus performantes. Fait que cette partie-là, pour moi, c'est un no-brainer. Par contre, où est-ce que je m'interroge beaucoup? Moi, j'ai un Touareg, j'ai acheté un 2017, je l'adore. Puis je pars le matin de Saint-Sauveur, je m'en vais à Montréal au moins 3 à 4 fois par semaine. Je vais en ramasserai, moi, du monde sur le pouce, ou j'en ramasserai des gens dans des zones de pick-up, tu sais, parce qu'il faut repenser.
Ah, c'est intéressant, oui.
Ben, notre façon, c'est correct qu'on ait 100% électrique dans 5 ans, mais le parc automobile puis les engorgements ne seront pas réglés. Moi, dans mon Touareg, mettons qu'il est électrique, j'aimerais ça, moi, faire des petits arrêts des zones de pick-up à quelque part, puis en ramasser 4 personnes. Je fais 160 km par jour tout seul dans mon véhicule. Moi, j'en prendrais du monde aller-retour, mais il faut penser à ça aussi, je crois. Là.
Comme trop de gens, hein, on regarde, là, moi, je m'amuse des fois dans le trafic à regarder. Là, puis
les gens sont tout seuls dans leur voiture.
80% des gens sont seuls.
Ben ouais. C'est ce que je disais. C'est ce que
mieux que la moyenne.
C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais, il va falloir repenser même notre façon. C'est pas juste le véhicule, c'est la mobilité dans son ensemble. Oui. Comment on se déplace? On est combien? Être tout seul, Yves, vous avez raison, être tout seul dans sa voiture pendant 160 km, pourquoi? Tu pourrais peut-être partager, mais tu sais, comme une auto, ça marche, mais ça marche chez une frange de la population. C'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Là, il y a Turo, là. Est-ce que vous prêteriez votre Touareg, Yves, à quelqu'un que vous connaissez pas?
Moi, personnellement, j'ai de la misère à le prêter à ma fille. Fait qu'un étranger, ça arrivera jamais, à moins que je m'achète un Yaris, puis ça non plus, ça n'arrivera pas, vous voyez.
Merci beaucoup, Yves. Merci bien. Non, mais hey, toi, Benoît, passerais-tu ton char à quelqu'un que tu connais pas?
Non.
Non?
Une auto, c'est comme une brosse à dents. Ça se prête pas.
Une auto, c'est comme une brosse à dents, ça se prête pas.
Mais tu sais, moi, je fais la comparaison. Tu parlais du Airbnb. Le Airbnb, c'est un très bel exemple. Tu sais, il y a des gens qui possèdent une maison qui l'échangent souvent contre quelqu'un d'autre pour des vacances. Moi, j'ai vu ça fréquemment. Et ils n'ont pas de problème à prêter leur maison. Probablement que ces mêmes gens-là prêteraient leur voiture.
Mais tu sais quoi? Peut-être même pas. Parce qu'on en parlait avec l'équipe, puis on se disait, ben on prêterait peut-être notre maison, mais pas notre voiture. T'imagines comment qu'on est?
Ah oui, ah, mais c'est une relation. Il y a une symbiose.
C'est fou avec notre voiture.
Une voiture, c'est un objet personnel. Les gens, c'est un
Je prêterais mon Mercedes, mon vieux Mercedes 2012 Blue Tech.
Je pense qu'elle
surtout
en
que
ce
matin, à la poste, je viens d'avoir un avis. Non, mais on va le dire, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres comme moi qui se sont fait avoir. J'ai reçu un avis comme quoi le recours collectif contre Mercedes-Benz Blue Tech venait de recevoir son avis de certification. Et selon l'action en justice qui a été intentée et qui vient donc d'être approuvée, les véhicules à moteur diesel Mercedes-Benz Blue Tech TEC sont défectueux ou sont munis d'un dispositif d'invalidation qui désactive le système de contrôle des émissions. C'est l'histoire de Volkswagen.
C'est mot pour mot.
Et chose
combien ils ont eu, ceux qui ont... ça a fini comment? Parce que Yves, avec son Touareg, en parlait justement.
5 000 $ il y a eu 5 000 plus le prix du véhicule en date du 15 septembre 2015, le moment où le scandale a éclaté.
Ça a pris combien de temps avant que ça règle finalement?
2 ans. En fait, plusieurs ont réglé l'automne dernier. Là, ça a commencé, c'est en cours. Puis là, on va procéder avec les moteurs 3 litres parce que là, c'était les moteurs 2 litres diesel. Là, on va procéder avec les 3 litres diesel parce qu'ils ont été reconnus.
Donc, c'est pas encore fini, Volkswagen?
C'est pas encore fini.
Quelle histoire, pareil.
Mais ça s'est fait quand même assez rapidement pour des si gros recours.
Considérant la grosseur du recours, c'est quand même pas mal. Et il faut dire que
T'es surpris, toi, de ça, Benoît?
Non, parce que c'est Bosch.
Mercedes, oui.
Le même équipementier Bosch qui a fait le système pour Volkswagen et le fait aussi pour Mercedes. Donc, ça risque d'être un système assez semblable, disons.
Oui. Copier-coller.
C'est épouvantable d'avoir fait croire aux gens. Tu sais, tu leur vends des véhicules plus chers parce que tu penses que c'est des véhicules écologiques, Philippe Leguay.
Des constructeurs allemands, il n'y a plus rien qui me surprend. D'autant plus que ce sont les champions de l'obsolescence programmée.
Beaucoup de problèmes électroniques aussi.
Moi, ce qui me choque le plus,
quand la garantie finit.
Mais tu sais, les véhicules de demain, exactement. C'est un très bon point, ça. Avec des pièces qui coûtent vraiment très cher.
Les yeux de la tête.
Ouais.
Moi, ce qui m'insulte surtout là-dedans, c'est que ça a été fait sciemment. Là.
Quand on
fait une affaire comme ça, on le sait au départ qu'est-ce qu'on fait. C'est pas une erreur de parcours. Il y a des gens qui ont étudié ça, qui ont mis ça, qui ont fait de la recherche et du développement spécifiquement pour ça, en connaissant tous les paramètres des tests qu'on fait en laboratoire et voir comment on pouvait tricher le système. Là.
Mais faut croire au Québec qu'on aime ça se faire fouetter, parce que regarde sur la route, là, après tous les scandales qu'il y a eu quand même chez certains constructeurs, là, on roule beaucoup dans ce genre de véhicule. On aime le véhicule de luxe au Québec.
Les ventes de Volkswagen n'ont pas baissé.
Ils sont
numéro un mondial.
Ils ont augmenté de 7% après le scandale. Fait que, tu sais, c'est dire que, OK, on n'a rien compris. Faut dire que...
C'est pour ça que je vous le dis, ils nous regardent gueuler contre le prix de l'essence, les pétrolières, puis ils disent, je pense qu'on est capable d'augmenter encore une petite scène aujourd'hui.
Ils aiment ça.
Ils aiment ça.
Ils vont enlever leur chandail puis se faire fouetter encore un peu.
Ah ouais, fais-moi mal. On revient tout de suite après. Bonjour Stéphane, pour vous, le véhicule de demain, j'imagine que vous allez me dire électrique?
Non, pas du tout. Merci de me permettre. Non, pas du tout. Ben, en fait, j'ai beaucoup d'inquiétudes.
À pédale?
Non, ce qui m'inquiète, moi, c'est ce qu'on va léguer à nos enfants, cette technologie-là. Je la connais pas. Je vis beaucoup d'inquiétudes à savoir, on se débarrasse de ça, comment ces batteries-là, au bout de 20 ans, je sais pas c'est quoi durée de vie, comment ça se recycle, combien de temps ça se recycle, mais au bout du compte, si on prend le nombre de millions de véhicules qu'il y a sur la planète, dans 20 ans, tous ces batteries-là, on fait quoi?
C'est un bon point.
Il y a déjà des programmes de recyclage qui existent, entre autres, avec la Volt chez GM et avec la Bolt, évidemment, quand ces modèles-là vont arriver au terme de leur vie. On reprend les piles et on en fait des piles stationnaires dans des éoliennes, entre autres.
Tu recycles les piles?
On recycle les piles parce que les piles sont encore viables même quand le véhicule n'est plus bon.
C'est en quoi, ces piles-là?
Il y en a, les premières, c'est du nickel-cadmium, là, les premières générations de piles qu'il y avait dans des Prius. Là, c'est
lithium.
Lithium-ion. Là, on a du lithium polymère parce que, on pourrait faire un cours technique, là, mais un des inconvénients... lithium, c'est que ça fait des dendrites, c'est-à-dire que ça fait des excroissances qui, dans une utilisation pure, font les premiers véhicules qui étaient avec ça brûlaient parce que les dendrites poussent et vont vers le côté négatif et quand ça se touche, ça prend feu. Parce que si vous mettez du lithium dans l'eau, là, ça fait une explosion. Le lithium, c'est extrêmement volatile. C'est pour ça que ça emmagasine si bien l'électricité. Là, on a réussi à contrôler les réactions. Et là, on est en train de développer des piles solides qui auraient littéralement une membrane impénétrable.
Une barrière. Là.
Une barrière. Et on pourrait réutiliser du lithium pur. C'est pour ça qu'on augmenterait sensiblement l'autonomie des piles. Je veux pas donner un cours technique là-dessus.
Non,
ce
mais
matin,
il y a beaucoup de questions sur les piles. D'ailleurs, Anthony la pose aussi. Combien de temps ça dure? Combien ça coûte une pile neuve pour un véhicule électrique? C'est important de le savoir quand on en achète.
Il y a des Prius 99 qui roulent encore avec les piles originales. Donc, ces piles-là ont 20 ans ou presque. Alors, et toutes les piles sont garanties 8 ans, 160 000 km en général.
Un cas connu et documenté, c'est Daniel Breton, le militant bien connu et qui a été brièvement ministre de l'Environnement pour le Parti québécois.
Très brièvement.
Très brièvement. Mais ça a duré plus longtemps, son histoire avec sa voiture hybride. Il a eu...
Tu veux dire sa pile a duré plus longtemps que son séjour en politique?
Ça se compare même pas. C'est exponentiellement plus longtemps. Il a eu une Honda Insight, le premier modèle. Donc ça, c'était année modèle 2000. Il l'a acheté en 99.
Exact.
Elle a plus de 300 000 kilomètres. il l'a encore.
Je pense qu'il roule encore avec.
Et ouais, elle a encore sa batterie originale.
Ouais. La batterie originale,
ouais.
300 000 km.
Donc, puis je le dis souvent, il y a peu de pièces dans une batterie. C'est pas une technologie compliquée, l'électricité. Ouais. Donc, il y a peu de chances que ça fasse défaut. Alors, ça, il n'y a pas de crainte à y avoir.
J'ai Nick, intéressant point de vue ici, Nick, en terminant, qui dit « La voiture de demain, pour moi, ça va être pas de voiture. » À mon avis, le prix de l'essence devrait doubler. Je le souhaite, il dit, au moins doubler. Qu'on nous taxe jusqu'à épuisement des stocks. Merci, bonsoir.
C'est un autre point de vue, effectivement. Ouais, ouais. On ressort le vélo.
Avec lequel je ne suis pas en désaccord.
Ça, c'est le Ferrandaise qui se fait passer pour Nick.
Non, mais c'est parce que ça encourage aussi l'achat de véhicules électriques. Alors, moi, les pétrolières, c'est comme, ben oui, allez-y, augmentez. Ouais. Moi, ça fait un mois là, que je me promène seulement avec des voitures hybrides ou hybrides rechargeables. Et c'est clairement ça qui va être mon prochain véhicule personnel.
Mais je te conseillerais, Philippe Lagu, la prochaine fois que tu fais le tour de la Gaspésie, prends plus que deux jours. Prends le temps d'arrêter à Bonaventure. Arrête dans le coin des pêcheurs de Bonaventure. Tu vas voir, c'est du ben beau monde. Non, c'est tellement beau, la Gaspésie.
J'ai adoré ça.
Deux jours, qu'est-ce que tu faisais là?
Je t'allais faire du repérage. Ben c'est pas vrai. Je t'allais essayer une auto. J'ai fait un marathon
Philippe
à vitesse
Lagu,
d'un sprint.
Toujours un plaisir. Benoît Charrette, merci beaucoup d'avoir été là tous les deux. On va se retrouver de l'autre côté des nouvelles. Restez là, tout le monde.